Bonjour Pascal Cherki.
Bonjour Monsieur Rivière.
Benoît Hamon a présenté hier son projet présidentiel. Est-ce que vous diriez que c'est le seul programme de gauche crédible ?
C'est un programme de gauche, et c'est un programme de gauche ambitieux et crédible. Le seul... Non, il y a d'autres programmes de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Après, je trouve que le programme de Monsieur Hamon répond plus en termes d'opportunités et de faisabilité aux besoins de notre peuple et de notre pays et de notre continent.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, justement, sur l'Europe, n'est pas plus audacieux dans son approche ?
C'est pas une question d'audace. Nous avons des propositions très fortes, on en reparlera si vous voulez, Monsieur Rivière, mais moi, la question que je pose à chaque fois aux amis de Jean-Luc Mélenchon que je rencontre, c'est de leur dire, est-ce que vous êtes ou non pour la sortie de l'euro ? Est-ce que vous êtes ou non pour la sortie ?
Ils répondent non au départ.
Donc, si on n'est pas pour la sortie de l'euro, qui d'ailleurs, de vous à moi, Monsieur Rivière, ne réglerait pas le problème de la dette des Grecs ou des Portugais, bon, qu'il faut aider à régler. C'est pour ça que nous sommes pour la mutualisation des dettes. Alors à ce moment-là, il faut changer les règles de fonctionnement de l'Union européenne. Et je ne vois pas quel est le désaccord que Jean-Luc Mélenchon peut avoir avec nous quand nous disons qu'à partir du moment où une zone euro existe, il faut qu'elle soit démocratisée. Il faut qu'il y ait un Parlement, des représentants des peuples qui puissent, eux, et non pas des administrations comme la Commission ou un petit sénat de chefs de gouvernement, fixer les règles de fonctionnement de cette zone euro. Je veux dire, en France, on débat du budget librement dans les assemblées. En Allemagne, on débat du budget librement dans les assemblées. Ce sont les représentants du peuple qui votent, qui fixent les critères et qui engagent les dépenses et lèvent les recettes. Pourquoi en Europe, il faudrait qu'il en soit autrement dans la zone euro ?
Alors, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, c'est on va dire à l'Europe que désormais, ça doit fonctionner autrement. Si ils ne nous entendent pas, eh bien, on finira par partir. Qu'est-ce que dit Benoît à mon sujet ? Il dit, on va discuter parce qu'on veut que ça fonctionne autrement, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas entendu ? Mais
monsieur, vous savez que quand vous engagez un combat politique, d'abord, vous recherchez des alliés. Le débat, ce n'est pas la France seule contre le reste de l'Europe. Je vous dis encore une fois, nous partirions, ça ne réglerait pas le problème de la dette des Grecs ou de la dette des Portugais. Bon. Donc nous recherchons des alliés. C'est pour ça que d'ailleurs le premier déplacement que nous avons fait, ce n'est pas d'aller voir Madame Angela Merkel pour lui dire que nous sommes très contents de ce qu'elle fait et que nous voudrions faire comme elle. Nous sommes allés au Portugal. Voilà. Nous sommes allés au Portugal rencontrer Antonio Costa et la gauche radicale portugaise, puisque l'ensemble de la gauche au Portugal a réussi à s'unir pour faire un programme de sortie progressive de l'austérité. Alors avec leurs marges de manœuvre à eux qui sont limitées, parce qu'ils n'ont pas le même poids économique que nous, et nous avons dit, nous voulons travailler à des alliances ensemble. Bon. Donc ça, c'est la première chose que nous voulons faire qui est importante. Donc, la deuxième, la France a des moyens de pouvoir se donner des marges de manœuvre, y compris pour agir. Et je vais prendre deux exemples, monsieur.
Donc vous postulez, monsieur, au fond, que les conditions que vous poserez, elles finiront par être acceptées.
Non, mais nous allons créer un rapport de force politique, monsieur Rivière. La seule chose que les Français ont fait depuis 15 ans en Europe, c'est de baisser les bras. Nous arrivons avant les élections en disant on a des idées, ou pas. Et puis dès qu'on vous dit non en face, vous dites « Ah bah, voyez, ils sont pas d'accord, donc on peut pas ». Non, nous allons engager un combat politique. Mais la France a des moyens de se faire entendre. Je veux dire, il faut sortir d'une forme d'hypocrisie aujourd'hui, monsieur Rivière. Plus personne ne respecte les traités, sauf la Grèce. Et on met à genoux le peuple grec pour lui demander de respecter les traités. Mais l'Allemagne ne les respecte pas. Elle fait 8% de déficit, d'excédent commercial. À partir de 6, vous avez normalement une procédure de déficit excessif, d'excédent excessif qui est engagée par l'Europe. Elle ne l'a pas fait. Bon... Beaucoup de pays ne le respectent pas. Donc ce qui prouve bien que ces traités aujourd'hui sont obsolètes et qu'il faut en faire des nouveaux. Donc c'est ce combat politique que nous allons engager. Mais vous savez, monsieur Rivière, on est sûr de perdre les batailles que l'on ne mène pas.
Alors, on parle de quelques-unes des mesures de Benoît Hamon, parce qu'après, sinon, vous allez me dire, on n'a pas parlé de son programme. Le revenu universel est maintenu. On peut dire que c'est une version un peu édulcorée, un peu moins ambitieuse, un peu moins coûteuse que dans la campagne des primaires.
Non, on ne peut pas dire ça. Nous l'avons fait évoluer. C'est-à-dire que nous conservons tout ce qui
moins cher.
Non, nous conservons tout ce qui était prévu dans la première phase, c'est-à-dire augmentation de 10% des minima sociaux, ce qu'on avait dit dans les primaires, généralisation au tiers des ayants droit qui n'y avaient pas accès pour sortir la grande pauvreté, ce que nous avions dit dans les primaires, et nous les donnons à tous les jeunes de 18 à 25 ans sans condition, qui n'ont pas de ressources, ce que nous avions dit dans la primaire. Ce que nous rajoutons, et parce que nous avons travaillé sur la base du mécanisme que permet le prélèvement de l'impôt à la source, c'est ce que nous avions prévu dans la deuxième phase, c'est des mesures de pouvoir d'achat, donc pour tous les salariés jusqu'à 1,9 fois le SMIC, c'est-à-dire 2800 euros brut progressivement. Et ça veut dire quoi très concrètement, monsieur Rivière ? Et c'est très important. Un salarié qui est à mi-temps ou un agriculteur, quelqu'un qui de son activité a des revenus qui représentent la moitié du SMIC brut, c'est-à-dire 740 euros brut par mois, 540 euros net, ou 570 euros net, touchera 400 euros de plus sur sa chaque mois, 400 euros de plus. Un couple au SMIC qui gagne 2300 euros net touchera 350 euros par mois en plus. Un étudiant qui travaille un jour par semaine, c'est-à-dire 20% du SMIC brut, et qui gagne 200 et quelques ronettes touchera 520 euros de plus, voilà, par mois. Donc, nous anticipons.
Donc, c'est désormais une mesure de pouvoir d'achat. C'est présenté comme ça.
Ce sont les deux. C'est-à-dire que c'est un socle de revenus garanti qui, bien évidemment, est proportionnel à vos revenus. Nous n'allons pas donner la même chose à quelqu'un qui gagne 2800 euros bruts par mois que quelqu'un qui en gagne 700 euros bruts par mois. C'est normal.
Alors,
Mais ce sera une augmentation de pouvoir d'achat très substantielle. Je veux dire, une femme, par exemple, qui travaille à mi-temps dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, qui gagne 740 euros bruts par mois, vous croyez que pour elle, c'est indifférent de recevoir 400 euros nets de plus chaque mois?
Bien, personne ne dit ça. Bon. Personne ne dit que donc c'est indifférent. La question, c'est
une mesure extrêmement, 35 milliards d'euros, et c'est une mesure extrêmement ambitieuse, mais juste socialement.
Benoît Hamon veut, a-t-il dit, renforcer la démocratie. Il a défendu à nouveau l'idée d'un 49-3 citoyen. Alors, ça serait sous condition de représentativité et dans des domaines particuliers. Ça reste à définir et à préciser,
non,
ça?
Non. Nous disons quoi? Il y a une crise démocratique dans ce pays. Il y a une distance très importante parce que le peuple se sent de moins en moins bien représenté et souhaite de plus en plus être associé à la décision. C'est une bonne chose. Donc la démocratie, c'est pas qu'une théorie, c'est aussi une pratique. Le 49-3 citoyen permet deux choses. Un, de faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une proposition de loi ou de résolution qui devra être débattue par les députés et votée ou non. À partir du moment où un certain nombre de personnes l'auront demandé, de pouvoir permettre au peuple de soumettre à référendum une loi votée mais non promulguée. Comme ça s'est fait par exemple en Italie. Voilà. Donc, afin d'éviter que ce soit une petite minorité qui prenne, entre guillemets, en otage l'ensemble de la représentation nationale, nous exigerons notamment qu'il y ait des critères de représentativité des signataires sur le territoire, et deuxièmement, pour que le référendum soit valide, que 50% au moins de participation ait lieu.
Bon. Le maire de Montpellier, Philippe Sorel, a décidé de porter plainte contre Laura Slimani, qui est porte-parole de Benoît Hamon.
Une excellente porte-parole.
Voilà, on va voir. Chargée de l'égalité homme-femme, il y a une semaine, elle avait commenté le ralliement de Philippe Sorel à Emmanuel Macron sur son compte Twitter dans ces termes. Je cite, « Je sais pas vous, mais moi, je m'en passe bien du soutien de Sorel. Un autre vieux, mâle, blanc, libéral en moins. » Ça vous fait rire, en fait. Donc, je vous demande pas si ce tweet mériterait d'être condamné. Mais vieux, mâle, blanc. Mâle, au passage, écrit M-A-L et non pas M-A, accent circonflexe, L-E. Petite faute d'orthographe.
Je crois que vous avez branlé, M. Rivière. Écoutez, moi, je rentre dans ma 51e année. Pour beaucoup de gens, je commence à être un vieux. Je suis un homme. Dans une société, parfois, les hommes, on les traite de mâle et je suis blanc.
Voilà. Vous voyez, vous avez dit on les traite de mâle.
Oui, mais nous sommes dans une société, Monsieur Rivière.
La question, c'est est-ce que vous pensez, par exemple, que cette formule appliquée à une femme serait imaginable?
Mais la société est quand même... Le jour où il y aura l'égalité homme-femme totale, Monsieur
on
Rivière...
On pourra dire une vieille femelle?
Le jour où il y aura l'égalité homme-femme totale, Monsieur Rivière, je pense qu'on emploiera de moins en moins le mot mâle et on n'emploiera plus le mot femelle.
Donc, vous n'avez rien à redire sur cette
formule? Pas ça, c'est que moi, le combat qui est important pour moi, c'est le combat de l'égalité totale entre les hommes et les femmes, de leurs innés. Donc, il faut se battre pour l'égalité salariale, l'égalité des conditions de vie, ça me paraît plus important.
Merci Pascal Cherki.
Merci Monsieur Rivière.